Bienvenue dans le Club des Hommes en Noir pour cette 9e émission de la saison 5 en vidéo. J'ai le joie d'accueillir sur ce plateau l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour.
Bonjour.
L'abbé Grégoire Cellier.
Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les auditeurs.
L'abbé Marc Gelfucci.
Bonjour cher
monsieur l'abbé, bonjour. Et le docteur Philippe de la Briolle. Merci beaucoup de votre présence, messieurs. Et merci d'avance également pour vos analyses. Alors, avant que nous entrions dans le vif du sujet, une petite annonce, une nouveauté en tous les cas concernant le Club des Hommes en Noir. Nos émissions sont désormais disponibles, en podcast sur le site de l'Homme Nouveau, hommenouveau.fr, mais aussi sur les plateformes Acast et Spotify. Désolé pour le terme anglais, où vous pouvez aisément les télécharger pour les écouter ensuite en voiture ou à tout endroit autre où vous serez. Certains les téléchargent même pour faire leur jardin le samedi matin. Voilà, c'était la page annonce de cette émission. Elle est consacrée à la récente assemblée plénière des évêques de France qui s'est tenue début novembre à Lourdes. Une assemblée plénière qui devait être principalement consacrée à des réformes de structure et qui a été en quelque sorte largement bousculée par les affaires de mœurs qui touchent un certain nombre d'évêques. Première question, messieurs, sur ce qu'on a appelé l'affaire Sentier, suivie ensuite de l'affaire Ricard, de nom d'évêque et d'archevêque et de cardinal même. Est-ce que vous avez été surpris par ces annonces faites soit avant l'Assemblée plénière, soit au cours de cette Assemblée plénière des évêques de France, début novembre? L'abbé Cellier.
Alors, si on suit la commission Sauvé,
qui me regarde,
tous les évêques sont d'anciens prêtres. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quand je dis anciens prêtres, c'est un prêtre de paroisse, disons. Or, la commission Sauvé nous dit les abus sexuels sont systémiques dans le clergé, donc il est normal, il n'est pas étonnant dans leur logique que de ces anciens prêtres qui sont devenus évêques, de façon systémique, on trouve effectivement des abus sexuels. Je ne suis pas d'accord avec la commission Sauvé, je pense que la commission Sauvé a tort, mais dans leur propre logique, il n'y a pas de surprise de ce côté-là, il me le semble.
Mais vous-même, est-ce que vous avez, de ce fait, vous n'avez pas été surpris par ce type d'annonce?
Alors après,
parce qu'elle est logique.
Elle est logique.
Enfin,
dans ce qu'ils affirment et qui est faux. Je ne pense pas que les abus sexuels soient systémiques dans l'Église. Mais après, effectivement, là où je suis surpris, c'est que l'annonciature fait quand même des enquêtes sérieuses, enfin, fait faire des enquêtes et probablement utilise les services de l'État français lorsqu'on en a besoin pour un certain nombre d'évaluations. Et je suis surpris qu'effectivement, on ait laissé passer des choses dont certaines sont suffisamment grosses pour être connues.
Alors, quand vous parlez d'enquête de la part de l'annonciature, vous voulez dire les enquêtes préalables
à la nomination d'un
évêque.
Normalement, un évêque, l'annonciature, à la suite de travaux où on consulte les évêques, qui proposent des prêtres, etc., propose à Rome ce qu'on appelle une terna, trois noms dans lesquels Rome choisit. Mais précisément, sur ces trois noms, on a fait des enquêtes pour éviter et de se retrouver dans des situations absolument impossibles,
invraisemblables.
Et donc, je suis un peu surpris, parce que un aurait pu échapper au radar, mais là, si on est autour d'une dizaine, je trouve qu'il y a soit un problème d'enquête fait, parce qu'encore une fois, les faits qu'on nous rapporte, notamment ceux de Mgr Sentier, répétés et apparemment connus, n'auraient pas dû échapper à ce genre d'enquête. C'est quand même une défaillance.
Continuons le tour de table, monsieur l'abbé Barthes.
Oui, monsieur Sentier, d'accord, voilà, ce sont des faits connus et jugés. Et jugés par qui doit juger, à savoir Rome, en l'espèce, et condamné, donc très bien. Moi, si vous voulez, dans ce genre d'affaires, d'abord, bon, qu'il y ait toutes ces affaires constamment qui sortent, on en a jusque-là, c'est abominable, hein, il faudrait. Pitié. Bon, un, sur le fait. Mais deux, je suis aussi agacé par le fait que c'est en quelque sorte l'opinion qui est devenue juge. On fait comme le monde. Voilà, on étale les affaires, les soupçons, souvent, d'abord. Et puis c'est le peuple qui doit juger. Pas du tout.
C'est l'opinion publique, vous voulez dire.
L'opinion publique, j'entends. Pas du tout. C'est dans l'Église, il y a des tribunaux. Ce sont eux qui doivent trancher. Et en l'espèce, Ou bien ils innocentent quelqu'un, ou bien ils le déclarent coupable. S'il est coupable, on le dégrade, on agit en fonction d'eux. Pour ce qui est d'évêques, les évêques, eux, relèvent de la juridiction du pape. C'est le pape qui doit les juger, soit directement, soit par les tribunaux, à savoir le tribunal de la Rote, ou bien maintenant dicaster de la doctrine de la foi pour les faits, les delicta graviora, dont les chaussures mineures, par exemple. Très bien. Le pape juge. Dans ce qui est au moins très maladroit dans ce qui a été fait lors de cette conférence épiscopale, c'est qu'on nous a dit...
L'Assemblée plénière, de
l'épiscopat. C'est qu'on nous a dit, à savoir le président, M. Moulin Beaufort, que outre l'affaire Sentier, il y avait 10 ou 11 évêques qui étaient poursuivis devant les justices civiles. Je dirais les justices civiles, on s'en fiche, mais enfin, pour nous, c'est la justice canonique qui compte, ou la justice canonique. Bon, très bien. Voilà. Alors, a priori, ils sont pour l'instant innocents, puisqu'ils sont, présumés innocents. On va voir comment on décide.
Je pense qu'on va en reparler de
voilà.
C'est
très important à dire.
Alors, mais ma question, c'était, est-ce que vous avez été surpris par, ce déballage
Je suis surpris par ce déballage, oui. Je trouve qu'il est à la fois... Bon, sur le fond, il y a forcément des affaires. Il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Hein. Je ne dis pas que tel et tel évêque... Donc, c'est très désagréable, c'est insupportable pour l'Église, ça délégitime... L'Église elle-même, comme telle, est délégitimée. On nous lance des colibets. Moi, j'ai été attaqué dans la rue, traversant le pont des Tuileries, par un vendeur, un libraire, qui m'a dit « Mais mon père, allez donc au commissariat pour vous confesser vos péchés ». Je lui ai dit « Mais quel ? Attendez, du calme ». Alors je l'ai pris à partie vivement. Il a fini par s'excuser. Mais ceci pour dire que l'Église est évidemment roulée dans la boue par ces affaires-là.
Je vous propose qu'on continuera sur les 11 évêques et sur les procédures canoniques. Je continue le tour de table avec l'abbé Guelfucci. Votre réaction en apprenant ces nouvelles, donc un petit peu auparavant l'affaire Sentier, et puis ce qui a été dit par Mgr de Moulin-Beaufort lors de l'Assemblée plénière des évêques de France à Louron.
Eh bien, pour moi, ça n'était pas surprenant, puisque c'est une logique d'abandon, justement, au tribunal médiatique, au fait que, de nos jours, les choses se font uniquement par de l'information vraie ou fausse, qui constitue... l'actualité, qui constitue une dialectique permanente, les fake news, les fausses nouvelles, on fait des coups de pub, et donc par rapport à la tranquillité de l'ordre, de la paix, et par rapport à des jugements sereins par des tribunaux, eh bien nous sommes dans une sorte de confusion, où on ne fait que des scoops, hein, on ne fait que des coups d'éclat, et ça ne m'étonne absolument plus, hein, puisque ça fait maintenant au moins une ou deux décennies qu'on vit dans cette atmosphère.
Permanent. Docteur Philippe de Lebrun,
tout à fait.
Même condamnation.
Alors, même surprise, question. Moi je veux dire, personnellement, je pense que le rapport Sauvé avait ceci de choquant, entre autres, que finalement l'étage épiscopal avait été en quelque sorte, sinon blanchi en tout cas, préservé de soupçons, sinon pour des non-dénonciations, etc. Bon. Mais il me semble qu'il y a un autre phénomène tout à fait nouveau, c'est que autant nous savons que nous ne savons ni le jour ni l'heure où le Seigneur viendra nous demander des comptes, autant nous ne savons finalement, ni le jour ni l'heure, où n'importe quelle lettre de dénonciation est susceptible de frapper de plein fouet, avant même toute instruction, à vrai dire, hein, puisque toute victime est réputée telle, être victime est une réalité assertive, il suffit de l'énoncer pour que ce soit performatif. Eh bien, toute situation... établie dans l'Église et qui focalise sur elle non seulement l'autorité de sa fonction, mais en même temps l'effet de modèle, enfin d'évolution. Suivre un pontife de l'Église, normalement, nous rapproche du bon Dieu, bon, et de la sainteté, si possible, voilà. Donc, nous voyons là qu'un jeu de massacre a été installé, tout courrier peut faire passer du Capitole à la Roche Sarpeyenne, si vous voulez, tout pontife, justement, chargé, au contraire, de paître le troupeau et d'assumer une responsabilité importante.
En même temps, là, dans le cas présent de l'Assemblée plénière, c'est une lettre du cardinal Ricard le concernant. C'est lui qui se dénonce, oui, merci monsieur.
Encore faudrait-il qu'il en ait eu l'initiative authentique. C'est vrai qu'il
donc
a
vous
été...
mettez en doute ce processus.
Bah, c'est y compris le contenu. C'est pas parce qu'il a embrassé une jeune fille, les Américains, les Allemands, sans parler des Russes qui peut-être seront chez nous demain, dit-on.
c'est un autre sujet.
S'embrasse sur la bouche sans y voir malice, si vous voulez. Il est évident que ce qui s'est passé, ce que ce jeune curé de 39 ans a dit avoir fait à une jeunesse de 13 ou 14, n'est pas simplement un baiser chaleureux. Parce que c'est une dénonciation qui tomberait à ce moment-là dans l'inconsistance, même si c'est incongru.
Il a eu franchement peur de s'accuser publiquement, sans même dire, parce que vous parlez de baiser, il dit rien en fait.
J'ai lu embrasser, voilà. Embrasser. Ah, ouais. Bon.
Je pense qu'il y a eu beaucoup plus.
Mais bien sûr, bien sûr.
Je pense qu'il y a eu beaucoup plus. D'abord c'est sous contrainte. C'est-à-dire qu'il allait avoir une dénonciation. La dénonciation voilà. Était en train d'arriver.
Donc on parle de l'affaire
Ricard. Dans l'affaire Ricard, qui n'a pas un méchant homme, j'ai rien contre lui de spécial, il n'a jamais fait de mal, il n'a pas été spécialement anti-tradine, ni quoi que ce soit. Mais je pense que, bon, d'abord, il était
c'est,
sous le
c'est
coup.
C'est pas la seule mesure de.
Non, non, mais je veux dire, j'ai rien contre lui, je ne vais pas l'accabler parce qu'il ne m'a rien fait de mal, etc. Mais, premièrement, donc, il était sous le coup d'une dénonciation, donc il a anticipé. C'est de la communication bien, bien connue, n'est-ce pas? Il faut anticiper et dire. Mais ce n'était pas ce qui. Si vous voulez, il semble dire que ça n'est arrivé qu'une fois, d'accord? Or, ce n'était pas une chose dans laquelle, effectivement, ça peut n'arriver qu'une fois, une liaison avec une personne majeure, avec un autre dont on est tombé amoureux, etc. Bon, ça on n'est pas forcé de recommencer.
Ou non, d'avoir été à part commencer.
Non, mais d'avoir caressé la joue d'un mineur, c'est certainement beaucoup plus fort, parce que sinon il n'aurait pas fait cette démarche très lourde. Et dans ce cas-là, si c'est beaucoup plus fort, je pense qu'il y a eu récidive. Je pense qu'il y a d'autres cas qui vont sortir.
C'est bien possible. Il a fait une énorme erreur, à mon avis, de se dénoncer. S'il y avait des soupçons contre lui, il fallait donc faire ce qu'on fait en droit canonique. D'abord, l'enquête préliminaire, qui correspond à l'enquête de police et à l'instruction. Hein, et deux, alors on est toujours présumé innocent, et deux, le jugement, où on dit le cardinal Ricard, oui, est coupable, donc il va être dégradé, ou bien le cardinal Ricard n'est pas coupable, il ne l'est pas. Mais qu'on dise à l'avance... ça trouble tout.
Oui, mais c'est de la communication. Voilà, c'est de la communication classique, la communication de crise.
Ce qui est dommage.
Anticiper, dire la vérité, reconnaître ses torts. C'est dans les livres
donc
de communication.
Pour vous, on est vraiment dans une opération de communication.
Ah, bah, le cardinal Ricard fait une opération de communication parce qu'il chante, il anticipe avant que la dénonciation arrive.
Et donc, c'est clair. Tout.
Oui, en réalité, en fait, je pense que cette opération de communication, dont vous avez rappelé, bien sûr, les modalités est extrêmement maladroite parce qu'il n'en dit pas assez.
Oui.
Voilà. Exactement. Et alors, vous dites, mais s'il en a une, peut-être y en aura-t-il d'autres. Ah, disons qu'on entre dans une situation de mise en doute du crédit du cardinal Ricard, bon, ce qui n'est quand même pas un inconnu. Et il y a aussi le fait qu'il dit, j'ai vraisemblablement fait du tort à cette personne, au-delà du geste inconvenant, en compliquant, en quelque sorte, l'évolution de la vie de cette personne, alors même qu'il y a déjà 35 ans qui se sont écoulés.
C'est pour ça que c'est beaucoup plus fort.
C'est-à-dire que quand il y a traumatisme, si vous voulez, et conséquences, il suffit de lire les témoignages qui d'ailleurs sont publiés sur le site de la CIAZ, hein, eh bien, la vie part en vrille tout de suite, et pas seulement d'ailleurs du fait du traumatisme, mais de la gestion de cette situation troublante, car à mon sens, je ne veux pas sortir du sujet, mais le vrai traumatisme, ça n'est pas d'abord ce qui s'est passé, mais de découvrir ou d'en avoir la conviction que ses parents ne pourront pas l'aider à gérer une situation nouvelle. Voilà, pour moi, c'est ça qui est traumatique. Hein. C'est pour ça que le drame reste quelque chose dans la gorge, sur le cœur, enfin, si vous voulez.
Ouais, enfin, dans tout l'être, en fait.
Absolument, absolument.
Mais, Monsieur Lebet,
pour moi, il y a un grand problème de divulgation et des circonstances de la divulgation d'un fait. C'est vrai pour toutes nos histoires, des histoires de famille, des secrets de famille, des délits, des crimes. C'est dans quelles circonstances on les dévoile. Dans quelles circonstances est-ce qu'il y a des règles de silence? Est-ce qu'il y a des règles de tolérance? Est-ce qu'il y a des règles de huis clos dans la gestion d'un fait? Et on a voulu, depuis un certain temps, se mettre dans s'écarter du bon sens et de la loi naturelle pour entrer dans des délires de coach, de personnes qui vous dirigent dans...
Qui vous accompagnent.
Qui vous accompagnent, mais qui n'ont pas aucun principe naturel, ne savent même pas ce que c'est que les 10 commandements, ne savent pas ce que c'est que les vertus cardinales, n'ont aucun sens commun, et qui vont faire de la communication... totalement aseptisée et contre nature. Lorsqu'on a voulu, on a décrété comme ça, tout d'un coup, mais dorénavant, nous dirons tout.
Transparence.
Dorénavant, nous serons transparents. Dorénavant, nous consulterons, nous livrerons toujours l'un des nôtres, alors qu'on a une justice propre, au procureur de la République. Dorénavant, on livrera au tribunal médiatique toute personne. Mais alors, si vraiment on le fait, dans la volonté de trouver des victimes qui n'avaient pas osé se plaindre, ça pourrait être justifié, et encore, il y a, je vous ai dit, une véritable démarche de bon sens pour l'examen d'un fait. Est-ce que c'est totalement vrai? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Comment ça a été interprété? Eh bien, lorsqu'on veut la transparence absolue, et qu'on se trouve pris à ne pas être transparent, c'est encore plus catastrophique.
Monsieur Lebet,
c'est ça qui est extraordinaire.
Est-ce que vous avez conscience que vous pouvez donner l'impression, mais en fait je m'adresse à tous les ecclésiastiques qui sont ici, donner l'impression de vouloir finalement que ce linge sale, parce que c'est quand même un linge sale, soit non seulement lavé en famille, selon l'expression, mais caché le plus possible. C'est-à-dire qu'on a nos turpitudes, mais il ne faut surtout pas que le monde le sache.
Mais un secret de famille,
bah oui,
est-ce qu'on a l'intention de le dire à toutes les réunions de famille? Vous voyez, là où la victime est préservée, c'est que lorsqu'on suit le bon sens et ce qui a été formé par l'histoire et la sagesse des siècles, et qu'une victime est écoutée, qu'elle a un avocat, que celui qui est soupçonné a lui-même un avocat, eh bien la vérité sera beaucoup plus éclairée. Et ce n'est pas du linge sale en famille, c'est un procès. C'est un procès, processus, procédure. Et on va purger, on va crever l'abcès et on va pouvoir libérer ou condamner. Mais on ne l'a pas fait.
Ça n'avait pas été fait.
Mais on n'a pas fait de procédure depuis au moins 50 ans.
Oui, oui.
C'est ça qui est extraordinaire. On ne fait que déplacer des prêtres. Comment dire, il y a des exemples en grand nombre, encore récents, de personnes qu'on découvre le poteau rose en 2019. C'est avec des personnes dont tout le monde savait qu'ils étaient déplacés, mais c'est des faits de 2012, par exemple. C'est quand même invraisemblable.
Je vais donner la parole au docteur Labriole qui voulait me répondre, rebondir en tous les cas sur ce que je disais.
Pour filer la métaphore du linge sale.
Du linge sale, oui.
Nous fabriquons du linge sale, tout ce temps que nous sommes, tous les jours que Dieu fait. Il n'y a pas de procédé qui permettent de ne pas salir son linge, car il y a une vie organique. Bon. Mais ça c'est une chose, c'est-à-dire que la transparence, on pourrait dire, est devenue un concept dérivé de la notion de vérité, laquelle ne dit pas son nom. Et un secret de famille peut contenir une vérité, mais il peut être aussi surchargé d'un certain nombre de productions imaginaires. Là, je crois que la recherche des victimes est une tâche tout à fait noble, mais une victime doit se faire connaître. Il faut qu'elle soit sujette de sa propre condition, c'est-à-dire que c'est une parole. Cette parole, on la tient ou on ne la tient pas. Dans ce qu'on appelle le chiffre obscur des criminologues, par exemple, bon, on sait que, c'est-à-dire le chiffre inconnu et pourtant statistiquement évalué, on sait que dans les viols féminins, il y a 10% de plaignantes. Bon. Mais il y a, on va dire, 90% de drames.
Mmh. Jusqu'ici, je vous suis, oui.
Voilà, toute la difficulté, c'est que... Donc ce drame est intime. Est-ce qu'on va en parler pour en faire une chose publique et noyer, je dirais, son propre milieu de vie dans la souffrance d'une telle évocation, hein, et d'autre part, de finalement voir la personne qui a vécu un drame être en quelque sorte circonscrite à son propre drame. Bon, c'est-à-dire que quand il y a un traumatisme, quand il y a un abus, quand il y a, je dirais, je l'ai dit d'ailleurs, hein, l'abus est compliqué d'un traumatisme qui est de découvrir qu'on ne pourra pas en parler. Bon, quand on est dans une situation qui touche un adulte, l'adulte peut ou pas en parler. Hein, à un conjoint, il peut en parler aux autorités, c'est pas, bon, hein, prendre conseil. Bon, mais c'est une réalité qui, d'intime, devient publique. C'est-à-dire qu'elle vous stigmatise. Bon, tout ça pour dire que finalement, la condition victimale, que d'une certaine manière la Commission Sauvé s'est efforcée de, à laquelle elle a voulu donner une visibilité, bon, qui a abouti à des chiffres, etc. Mais les chiffres eux-mêmes ne disent pas l'histoire individuelle, ne disent pas ce qui s'est passé. Sur le panneau d'Assiane, il y a 23 témoignages. 23 sur 300 000.
Revenons, si vous voulez bien, à cette assemblée plénière.
Donc, rechercher des victimes, c'est bien, mais aussi, il faut bien admettre que l'habit victimal ne fait pas la victime, si vous voulez.
Hein, mais ça, on est d'accord.
Pas plus que la... C'est-à-dire qu'il faut une instruction. Et pour instruire, absolument, il faut des compétences.
Et après tout, ce n'est pas nécessairement la victime qui va dénoncer le crime, mais ça peut être aussi tout simplement des témoins, des connaissances, etc. Voilà. Donc, et le tribunal va jouer avec l'équivalence du ministère public pour attaquer tel prêtre, tel évêque. Donc, le tribunal peut décider aussi, justement, pour protéger cette victime, de ne pas dire son nom. Ça peut très bien se faire comme ça. Il y a une difficulté quand même dans la procédure canine. Il faut le dire. Moi, je suis tout à fait. Nous sommes tous ici favorables à la mise en œuvre de procédures canoniques.
Je ne sais pas à quoi je suis favorable personnellement.
Ça aurait été. Ben, parce
que, bon, est-ce que dit Monsieur l'Abbé ?
C'est la règle de l'Église. C'est la règle de l'Église. Il est vrai qu'il y a une difficulté, justement, qui tient à ce qu'on cache des secrets de famille, peut-être, moi je ne sais pas. En tout cas, les procédures canoniques sont secrètes. Bon, ça se conçoit parfaitement dans les procédures d'annulation de mariage, par exemple. On ne sait rien, hein, des débats. Tout au plus, va-t-on connaître la sentence, et encore sans les attendus, n'est-ce pas, monsieur ? Bon, très bien, pourquoi pas. Ça vaut aussi, mais pour l'ensemble des procédures canoniques, et ça vaut aussi pour les procédures actuelles, ce qui présente tout de même une difficulté. Certes, il ne faut pas tout jeter sur la place publique, mais faire connaître quand même que tel évêque, on l'a fait pour Sentier, Monseigneur Sentier, qu'il est condamné à telle et telle peine, on l'a fait pour...
On l'a fait sous pression, quand même.
Bon, mais et je veux dire que... Alors là, je donne par exemple, j'ai dû aider des parents dont le fils avait été victime d'un prêtre et qui était jugé, c'était des délits très graves, par la congrégation de doctrine de la foi. Bon, ils ont été très bien reçus, ils sont très compétents, ils sont très sérieux.
Quand vous dites « ils », c'est ils, la dire, congrégation
les membres de la congrégation pour la doctrine de la foi. Et ils s'en tiennent à ce qu'a établi le cardinal Ratzinger quand il était le préfet. Il veut vraiment régler toutes ses affaires le mieux possible. Mais, on ne pouvait rien savoir. Où en était l'affaire ? Ils n'ont pas voulu me le dire. Est-ce qu'elle était renvoyée devant l'évêque, ce qui me paraissait être le cas, et qui allait juger de cette affaire-là? Impossible, on ne pouvait rien savoir. Et à la fin, les parents n'ont même pas su que la condamnation était advenue, à savoir, on l'a su tout de même, bien sûr, mais par d'autres témoignages, que le...
De manière indirecte.
Indirecte, oui. Que le prêtre avait été réduit à l'état laïque. J'ajoute une dernière chose. Là,
et après, je donne la parole à la messie.
On trouve un respect de la justice civile par les juridictions ecclésiastiques.
On va en parler. On va en parler dans un instant, si vous voulez bien, parce que c'est un vrai sujet.
Voilà. Est-ce qu'on lave le linge sale, hors de la vue? Le tribunal médiatique n'est pas la même chose qu'un tribunal judiciaire. Un tribunal judiciaire cherche, avec les moyens humains imparfaits et limités, cherche à trouver la vérité et la justice. Il va suivre des procédures qui assurent la défense des droits, qui assurent l'équilibre du procès, etc. Ces choses-là sont hors du tribunal médiatique. Par exemple, elles sont longues, parce qu'il faut donner le temps des enquêtes, des réflexions, des défenses, etc. Elles sont formalisées, c'est-à-dire qu'effectivement, l'avocat ou le procureur vont pouvoir discourir, même si vous êtes scandalisé de ce qu'il dit, il faut attendre qu'il ait fini de discourir pour que l'autre puisse répondre, si vous voulez. Donc, ce sont des formalisations, ce sont des structures qui ont une certaine lourdeur, mais qui assurent humainement, dans la mesure où les hommes peuvent le faire, une forme de justice. Le tribunal médiatique, il est immédiat, et tac, tac, on condamne. Alors, vous avez des choses amusantes, parce que vous avez une association féministe dans laquelle, à l'intérieur, il y a eu un abus sexuel entre deux féministes, et il y avait celle qui disait que la victime avait forcément raison, que c'est la thèse féministe actuelle, ou bien l'autre qui disait bah, « c'est notre copine, on va la défendre ». Et donc, finalement, le truc a explosé, parce que justement, on ne suivait pas des procédures humaines, lourdes, parfois pas amusantes, parfois qu'il faudrait peut-être modifier pour trouver des meilleurs équilibres entre,
discrétion. J'entends bien ce que vous dites par rapport aux tribunaux et de leur jugement, de leur procédure, de la lenteur, l'enquête, la nécessité, etc. Mais il y a un certain nombre de jugements qui se font en public, qui ne se font pas de manière...
Mais pas tous. Par exemple, les jugements devant mineurs sont...
Les jugements de mineurs, voilà, effectivement.
Voilà, nous parlons de jugements canoniques, ils ne se font jamais en public.
Voilà. Oui, mais là vous parliez plus généralement...
Plus généralement, le fait que, par exemple, ce qui me paraît très légitime, les jugements pour mineurs sont à huis clos, parce que justement pour préserver cet être fragile, ou bien, je dirais, il y a une chose importante que peut-être un certain nombre de gens ne comprennent pas, la prescription. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, la justice estime que juger ferait plus de mal que de bien, parce que les situations... D'abord, on n'aura pas les témoignages, etc. Donc, il y a une prescription. Par exemple, si vous avez fait un homicide, au bout de 30 ans, si vous n'avez pas été pris, vous ne serez pas jugé ni condamné. Bon, alors, c'est une raison de bien commun. C'est pas en faveur de la personne.
C'est une raison de bien commun, parce que
justement, on trouve une justice imparfaite, mais la meilleure possible, alors que le tribunal médiatique va vous condamner avec des gens qui, par exemple, finalement, seront innocentés et vont avoir eu leur vie bousillée, alors qu'ils n'ont rien fait, mais ils n'ont pas pu se défendre devant le tribunal médiatique. Vous ne pouvez pas vous défendre, parce que vous êtes condamné. Ne fût-ce que cette assertion, la victime a toujours raison, nous devons toujours l'écouter. Les êtres humains sont imparfaits, il y a des menteurs. Mais pas tous, certains. C'est ça qu'il faut vérifier, c'est ça que la justice doit vérifier.
Vous mettez tous en cause, à raison évidemment, le tribunal médiatique. En même temps, comment ne pas prendre en compte aujourd'hui de manière réaliste, c'est-à-dire on peut rêver un monde idéal où l'opinion publique n'existe pas et ne fait pas pression. Aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, ne sommes-nous pas obligés, j'essaie de poser ma question correctement, je vous donne la parole tout de suite, docteur Gabriel, sommes-nous pas obligés de tenir compte de l'impact médiatique de tous ces faits?
L'invasion médiatique et le retour de balancier du silence ou de l'inertie canonique. Hein? Mais je crois que les évêques ont ouvert la boîte de Pandore, si vous voulez, en décrétant toute victime crédible. C'est-à-dire que ils ont fait l'impasse sur l'instruction, en considérant peut-être que c'était indigne, etc. Mais je veux dire que, si vous voulez, le psychiatre qui reçoit sans arrêt des gens qui se plaignent peut faire preuve d'empathie dans la recherche de la vérité qui est derrière les dires. Hein. Mais concrètement, établir que tout plaignant sera de droit indemnisé, c'est d'abord s'exposer, c'est ce qui m'apparaissait en premier, à voir apparaître un certain nombre d'escrocs, voilà, réclamant de l'argent, puisqu'apparemment, c'était, comment dit-on, c'était comme dans la vie civile, autant qu'il en coûte, enfin, quoi qu'il en coûte. Voilà, quoi qu'il en coûte. Mais derrière cette affaire-là, finalement, ce que nous observons, c'est moins, c'est d'abord d'une part parce que ceux qui se plaignent ne veulent pas d'abord de l'argent, ils veulent casser la baraque, qui a brisé leur vie.
Pas ceux qui se plaignent, parmi ceux qui se plaignent.
Bien sûr, mais ceux qui font savoir leur plainte.
Il est difficile de faire une généralité, là, parce qu'il y a des vraies victimes.
C'est une ébauche. C'est une ébauche qui permet une hypothèse recevable.
Dans ce lot, il y a des véritables victimes.
Bien entendu, mais elles ne sont pas victimes uniquement du clergé. C'est ça, le drame dont, finalement, on a du mal à parler. Concrètement, les évêques, en décrétant que toute victime sera crue et indemnisée, aura en fait des ambitions bien supérieures, ce que l'on observe, c'est que finalement, ce qui émerge, c'est moins des dénonciations d'autres prêtres, il y en a, que maintenant des dénonciations d'évêques. C'est-à-dire qu'ils ont mis le doigt dans l'engrenage, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont, en déclarant que tout dénonciateur le fait à bon droit, eh bien, je dis que toute situation pontificale, enfin de pontife, on va dire, au sens large du terme, dans l'Église est exposée à n'importe quel libelle, n'importe quel billet vengeur, comme on faisait contre le roi, vous voyez.
Et sur les 10, 11 évêques, il ne faut pas oublier que justement, il y en a qui n'ont pas agi, comment dire, contre le sixième commandement, mais qui auraient non dénoncé.
On ne sait pas. Parmi,
voilà. Non, mais sur les 11, il n'y a pas 11 délinquants. Non, il y en a qui sont.
C'est la difficulté de ce chiffre qui est balancé comme ça.
C'est un chiffre qui n'a pas de sens.
Non, mais non seulement il n'a pas de sens, mais
il ne rentre pas dans le détail, et ça, c'est quand même effrayant.
Oui, parce que ça met
le cardinal Barbarin, par exemple, au même niveau qu'un délinquant, alors que comment dire, qui aurait posé des actes. Alors que lui, on l'accuse d'avoir, de ne pas avoir réagi suffisamment et tout cela, alors qu'on sait bien que lui est venu sur une situation et qu'il n'a quasiment rien à voir avec cette situation. Mais ça, c'est justement ce qui, les faits qui se sont déroulés. Mais je reviens sur l'inertie canonique. Nous serions plus paisibles actuellement si on avait été plus sévère
auparavant,
si on avait fait des procès,
c'est évident.
Et si on avait, à la moindre plainte, on avait vérifié la vérité de la plainte. À la moindre dénonciation, on avait vérifié. Donc, il faut des avocats, il faut des juges, et il faut des peines. C'est-à-dire qu'auparavant, on mettait dans un monastère sévère, dans un monastère de stricte observance. Eh bien, quand vous avez une cellule de 5 mètres sur 3, que vous avez un cloître ou un petit jardin et que vous dites l'office, eh bien, ça permettait de ne pas reconduire à l'état laïque un prêtre criminel ou délinquant. Ça lui permettait aussi, parce qu'il y a une dimension, c'est que là, actuellement, il n'y a qu'une seule peine. Et du coup, oui. Les délinquants eux-mêmes ont tellement peur de perdre leur état clérical, de perdre leur vie. Et certains sont des compulsifs, certains ne sont pas, si vous voulez, des malicieux. Et donc, ils sont terrorisés parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'échelle des peines. Il n'y a pas de graduation. On ne pourra même pas les mettre je dis des choses évidentes, mais qui font plus ou moins sourire et qui peut-être portent de l'ombre à certains lieux. Mais il est vrai que lorsqu'on met quelqu'un aumônier de religieuses au fin fond de la France, lorsqu'on le met aumônier d'un EHPAD, d'une maison de retraite, c'est une gradation de la peine. Et on peut ne pas toujours reconduire à l'état laïque un prêtre délinquant. Il y a une échelle. Et on fait tellement peur actuellement aux prêtres qu'ils ne se dénoncent pas, justement. Il y a un imbroglio extraordinaire en ce moment, parce que c'est l'héritage des 30 dernières années, 30, 40, 50, 60 peut-être, mais on ne parvient pas à retrouver la sagesse et le bon sens. Si on a des tribunaux, c'est parce qu'avant, quand on dénonçait quelqu'un et que
mais
ça s'enflammait,
avant, ça. Pardon,
on
mais...
le... Non, non, pendant des siècles, on, mais a, lynché, si on peux... a lynché les personnes soupçonnées. Et au bout d'un certain temps qu'on a vu qu'il y avait tellement d'innocents parmi les lynchés, hein, mais qu'au fur et à mesure des siècles, on a fini par juger les gens.
Alors, pardon
et,
sur le...
Mais le lynchage médiatique, c'est bien
pas
ça.
Que je parle.
C'est ça.
Sur l'emprisonnement dans un... Il nous reste très peu de minutes, mais sur l'emprisonnement dans un, entre guillemets, dans un monastère, c'est très gentil, mais on n'est plus en chrétienté. C'est-à-dire que le pouvoir temporel n'est plus là pour être le bras séculier de
mais
l'Église.
Mais on peut le faire encore.
Pardon, si je peux finir. Merci. Le bras séculier n'est plus là pour vérifier que la peine est... Et suivi, c'est-à-dire que vous enfermez un prêtre dans un monastère, demain s'il veut sortir, il sort.
Mais à ce moment-là, on peut lui appliquer la peine plus lourde. On peut lui appliquer la peine plus lourde.
Laquelle?
Ben, la dégradation de l'état ecclésiastique, vous voyez ce que je veux dire? C'est
d'accord.
Ça la question. Mais je veux dire, c'est ce que l'abbé de Gontier parle de comment dirais-je, de gradation
de la peine.
On lui met une peine, il ne la respecte pas, on lui met une peine supplémentaire, si vous voulez, comme un récidiviste. Et puis finalement, si on voit qu'il est complètement, il refuse toute peine, ben, à ce moment-là, on ira jusqu'à la peine finale, puisque...
Ou le livrer au bras séculier.
Ouais,
oui, aujourd'hui, c'est...
Voilà. Mais je dirais il est possible d'envisager, comme ça a été fait, comme on disait par le pape Benoît XVI, etc., donc de modifier certaines procédures canoniques pour tenir compte, par exemple, du fait que les nouvelles vont très vite aujourd'hui, que tout est connu, etc. Peut-être qu'effectivement, il faut que certains procès ne se fassent pas de façon secrète et soient plus publics. C'est possible, c'est pas... effectivement. Alors, dans le cas de Santier, il y a eu une peine qui n'était pas connue, d'accord, ça c'est point A, mais ensuite, qui n'a pas été sérieusement appliquée, puisqu'il va parader à des messes...
C'est un vrai scandale, ça.
Voilà, ça c'est un vrai scandale. Et déjà, si on avait pu dire, Monseigneur Santier a dû démissionner, il est dans une petite aumônerie, il ne paraît plus en public, c'est quand même plus sérieux que de dire il a participé à la messe chrismale et à la messe d'intronisation de son successeur. Je dirais, là, il y a une faute dans l'application des peines. Mais dans le cas de l'Arche, dans le cas de l'Arche de Jean Vanier, où il y a eu des abus, Rome a fait son travail dans les années 50. On est dans les années 50. Rome a fait son travail,
avant le concile,
a condamné, a exclu ce prêtre de tout ministère, l'a réduit effectivement à être aumônier de ou je ne sais pas quoi, puis... Au bout de 5-10 ans, etc., il a demandé de revenir, et on n'a pas c'était sérieux pour suivre la peine, si vous voulez. On a dit, bah oui, vous pouvez. Et il est reparti dans de nouvelles abus. Donc, je dirais, il y a des tribunaux qui jugent, et il faut vérifier l'application des peines. Ceux qui demandent du travail, ceux qui demandent de l'application, mais il faut le faire. Et donc, dans la justice civile, il y a un juge d'application des peines, c'est-à-dire celui qui, après le jugement, vérifie que les peines, effectivement, sont... Il faudrait, dans les diocèses, à quelqu'un qui s'occupe de suivre, enfin, dans les diocèses ou une structure quelconque, de suivre et de vérifier, effectivement, que les personnes... Dans toutes les séries américaines, on voit celui qui est sorti de prison qui doit voir son contrôleur judiciaire toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ben, je pense qu'effectivement...
Vous regardez trop la télé.
Et en France, on doit aller se présenter à la gendarmerie, je crois, quelque chose comme ça. Ben, je pense qu'il faudrait que, dans les diocèses, etc., il y ait quelqu'un qui toutes les semaines, tous les 15 jours, ou tous les mois, reçoivent celui qui a été condamné pour vérifier qu'il applique bien la peine.
Oui, mais... je peux ?
Un mot pour finir. Juste. Non, très
alors,
court.
Eh bien, c'est très simple. Je crois que dans la recherche de gradation des peines, qui est une quadrature du cercle, et notamment au milieu clérical, il faut quand même se rappeler que nous passerons tous devant le juste juge, et que, in fine, si vous voulez... Tous ceux qui ont pratiqué l'esquive, etc., le baratin, etc.,
seront jugés.
Voilà. Donc finalement, la notion de peine médicinale, hein, puisque c'est quand même l'esprit du droit canon, l'expiatoire, mais aussi du médicinal. L'excommunication, c'est médicinal. C'est pour qu'on se dise, mais attendez, là, vous êtes dehors. Bon. Et donc, il faut, voilà, si on perd de vue le jugement de Dieu, hein, du juste juge, eh bien, toutes les peines apparaîtront insuffisantes aux victimes et excessives aux bourreaux.
Merci, docteur de la Briolle, pour cette conclusion sur le jugement divin qui nous attend tous. Mais en attendant celui-ci, si je puis dire, nous nous retrouvons, j'espère, puisque tout est dans les mains de la Providence, la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur un nouveau thème dans la continuité de cette assemblée plénière des évêques de France qui s'est tenue début novembre. En attendant, que Dieu vous garde.